Vous écoutez
RMC. RMC. Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet, bonjour
Quentin. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le débat sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron veut les interdire aux moins de 15 ans. Une proposition de loi arrive dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Un procès inédit qui commence à Paris. L'ancien sénateur Joël Guerriau jugé pour tentative d'agression sexuelle sur la députée Sandrine Josso. C'est RMC qui vous a révélé cette affaire. Et la tension, vous verrez, qui ne retombe pas aux États-Unis dans la ville de Minneapolis après la mort d'un homme tué par la police fédérale durant le week-end.
Emmanuel Macron veut que ça aille vite.
Oui, le président a annoncé durant le week-end le lancement d'une procédure accélérée pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans dès la rentrée de septembre via une proposition de loi qui sera examinée à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Alors, le texte dit qu'il faudra prouver son âge en envoyant un document d'identité à un serveur pour pouvoir s'inscrire à l'avenir sur un réseau social. Eh bien, voilà ce qu'en pensent parents et enfants avec Louise Salé pour RMC.
Pour ces collégiens de 13 et 14 ans, l'idée de supprimer leur compte sur TikTok ou Instagram est difficilement envisageable.
Souvent, quand on a fini les devoirs, quand on est fatigué, ça détend, ça déstresse et voilà. J'aimerais pas qu'on l'interdise.
Moi, je trouve que c'est un peu abusé parce que ça va, je sais me contrôler. Quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter.
On trouve toujours des manières, en fait, d'avoir les réseaux sociaux, donc ça sert pas à grand chose.
Beaucoup anticipent en effet une loi peu applicable comme Lola, 13 ans, qui trouve quand même l'idée intéressante.
C'est sûr qu'il y en aura qui frauderont, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup de gens honnêtes qui vont attendre 15 ans. Moi, j'ai pas Snapchat ni quoi que ce soit, et je vis très bien sans.
Pour les parents, cette loi serait aussi un argument de plus incontestable face à l'insistance de leurs enfants, Volsi et mère d'une ado de 13 ans.
C'est une très bonne idée. Je pense que c'est un repère. Les problèmes de harcèlement viennent souvent des réseaux sociaux. Toutes ces histoires peuvent quand même nous convaincre que c'est pas une bonne idée, qu'ils sont trop jeunes.
Le texte aujourd'hui examiné à l'Assemblée comprend également une mesure pour interdire le portable dans l'enceinte du lycée.
Tiens, il y a l'heure du tout numérique. Il y a cette nouvelle affaire embarrassante de vol de données à la Fédération française de chasseurs qui dit avoir été victime d'une cyberattaque la semaine dernière, comme il y a quelques mois, on s'en souvient, à la Fédération de tir Léonie Guilbeault.
Oui, des noms, prénoms, numéros de téléphone et adresses postales de chasseurs seraient en vente sur le dark web depuis mercredi. C'est l'interface en ligne utilisée par les adhérents pour gérer la validation de leur permis de chasse qui a été piratée. La Fédération nationale des chasseurs précise qu'aucune donnée bancaire ou liée à la détention d'armes n'est concernée par l'incident. Mais Corinne Henin, experte en cybersécurité, alerte. Ces données peuvent tout de même être utilisées par les malfaiteurs.
Pour trouver des endroits ou cambrioler pour aller récupérer des armes. Le raccourci est vite fait. Ces personnes ont du matériel pour faire du tir et donc ont des armes chez eux. Le fait d'avoir les adresses des personnes, ça va faire des cibles privilégiées pour ce genre de cambriolage.
C'est ce qui s'est passé après le piratage de la Fédération française de tir. En octobre dernier, plusieurs cambriolages à Nice, Lyon, Paris et Limoges ont suivi la fuite des adresses des licenciés. Une plainte a été déposée par la Fédération des chasseurs et c'est la cellule cyber de la gendarmerie qui est en charge de l'enquête.
C'est un procès inédit qui s'ouvre aujourd'hui à Paris et pour deux jours au tribunal correctionnel. L'ancien sénateur Joël Guerriau va être jugé pour tentative d'agression sexuelle sous soumission chimique de la députée Sandrine Josso. Affaire qui remonte à novembre 2023 et que vous aviez révélée à l'époque, Guillaume Bier.
Oui, du jamais vu entre deux parlementaires. Ce soir-là, Joël Guerriau invite Sandrine Josso à venir fêter sa réélection dans son logement parisien. Mais sur place, elle découvre qu'elle est la seule convive et que le champagne a un goût bizarre. Bouffée de chaleur, palpitations, nausées. La députée se sent très mal face au sénateur qui lui fait des tours de magie, joue avec l'intensité de la lumière et manipule un petit sachet en cuisine. Sandrine Josso parvient à s'enfuir. Les analyses prouvent qu'elle a ingéré de l'ecstasy et une forte dose de MDMA, des drogues de synthèse. Elle est donc persuadée que Joël Guerriau l'a droguée à son insu pour la violer. Ce que l'ancien sénateur a toujours contesté, il plaide l'inadvertance d'une flûte à champagne mal nettoyée et assure avoir acheté cette drogue pour lui, car il était déprimé, notamment après, je cite, « la mort de son chat ».
8h04 sur RMC, ça ne finit jamais en Bretagne.
À nouveau, trois départements, nous dit Géraldine, en vigilance orange pour les risques d'inondation encore à partir de ce soir en Ille-et-Vilaine, dans le Finistère et le Morbihan, comme ici, écoutez, à Mal-l'Étroit, près de Ploërmel, où cet habitant Philippe a l'impression de ne pas voir le bout du tunnel.
Ça escale toutes les maisons, faut nettoyer, puis après ça revient, c'est répété souvent, quoi. C'est usant pour ceux qui habitent, c'est vrai, hein, c'est stressant, c'est... Voilà.
Et vous allez souvent voir du coup le canal, vous surveillez ?
Souvent, une fois peut-être par jour, oui. Enfin, on peut faire que ça, hein, regarder, mais bon, on peut rien faire. Le feu, tu peux l'éteindre, mais la flotte, tu peux pas l'arrêter.
Et alors, les États-Unis, eux, sont balayés en ce moment par la plus grosse tempête polaire depuis 40 ans avec des images impressionnantes de neige à New York et au moins 10 morts, une vingtaine d'États qui ont décrété l'état d'urgence. Malgré le froid, il y avait encore une manifestation, des centaines d'Américains, hier dans la ville de Minneapolis, après la mort d'un homme de 37 ans, tué par la police fédérale durant le week-end, deux semaines après une autre affaire impliquant la police de l'immigration, cette fois, police qui est plus que jamais renforcée depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche. C'est ce que nous disent Français, écoutez-le, habitants de Minneapolis.
Effectivement, là, on a passé un cap. Malheureusement, ces deux personnes tuées, c'est la concrétisation de l'impunité, du manque de formation et de la carte blanche que ces agents fédéraux ont. J'ai plus la confiance qu'il y a un état de droit et qu'il y a quelqu'un qui me protège quelque part. En me disant, si je fais rien de mal et si je provoque personne, il devrait rien m'arriver. Et cette assurance, je l'ai plus. Dans les zones concernées, des quartiers assez cosmopolites, plutôt sympas d'habitude. Là, certaines écoles, la semaine dernière, ont fermé quelques jours. Certains restaurants, certains commerces, pour pas mettre en danger leurs élèves, pour mettre en danger leurs employés, les gens se sentent plus en sécurité chez eux.
Alors Donald Trump impute cette dernière affaire à Minneapolis aux démocrates. Les anciens présidents Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut. Le foot, c'est la crise qui continue à Lille, battu 4-1 par Strasbourg hier soir pour la fin de la 19e journée de Ligue 1. C'est la 5e défaite d'affilée pour les Lillois. Le foot, c'est aussi ce qui se passe, écoutez, dans les divisions amateurs. On constate que désormais des arbitres portent des caméras piétons, comme les policiers, en fait, pour lutter contre les violences et les menaces dont ils font parfois l'objet. Mais on parle là de catégorie amateur, comme hier, lors d'un match de challenge départemental à Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est près de Rennes, Kevin Morand.
Oui, et dans le vestiaire avant le match, l'arbitre sensibilise les deux capitaines.
C'est lui qui refuse d'être filmé, pas être sur la feuille des matchs. C'est qui est pour la prévention, pour la sécurité.
Le match a été jugé à risque par le district d'Ille-et-Vilaine. L'arbitre Aliou Dieng porte donc au niveau du torse une caméra embarquée.
Et pour la lancer, j'ai juste appuyé sur le bouton. Et là, du coup, ça enregistre. Si je vois que le match commence à être compliqué, du coup, je vais lancer la caméra pour me protéger et pour protéger les joueurs aussi.
La rencontre entre Saint-Jacques-de-la-Lande et Chartres-de-Bretagne s'est finalement déroulée sereinement.
Justement, je pense que c'est grâce à la caméra que ça a été un match tranquille.
Le capitaine de Chartres, Richard Leget, salue cette expérimentation.
Je pense que c'est très très bien. On peut voir dans certains clubs d'attention, avoir un public un petit peu virulent. Nous, je pense en tant que joueur, ça nous permet de se canaliser, surtout en district, surtout en coupe.
42 districts et ligues cette saison testent ce dispositif porté par Philippe Diallo, le président de la Fédération Française de Football.
Ces caméras portatives ont un effet, je l'espère, dissuasif. Ces images pourront servir de preuve pour nos commissions de discipline, voire pour la justice.
Après un bilan en fin de saison, ces caméras embarquées pourraient être généralisées sur les matchs amateurs à risque.
Les Bleus du rugby se réunissent à partir d'aujourd'hui à Marcoussis pour préparer le tournoi Destination qui commencera dans 10 jours contre l'Irlande. Mais mauvaise nouvelle, il y a deux joueurs de La Rochelle, Antonio et Boudéan, qui sont blessés hier soir lors de leur défaite 32-27 à Clermont. Et puis il va y avoir des déçus. C'est aujourd'hui, normalement, que sera dévoilée la liste des Français retenus pour les JO de Milan-Cortina en ski alpin. Mais il y a moins de place que prévu pour les Français. Et certains, comme le multiple médaillé Alexis Pinturo, sont en sursis et pourraient donc ne pas disputer les JO qui seront à suivre évidemment sur RMC.
8h08, c'était le journal de Quentin Vinet et c'est l'heure de parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel, notre fiche de paye de janvier va subir un coup de rabot.
Nous pourrions perdre jusqu'à une quinzaine d'euros par mois sur notre feuille de paye à partir de janvier, ou parce que effectivement, on va subir quelques prélèvements supplémentaires. Et donc, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas la faute de votre entreprise, ça n'est pas la faute de votre patron. Votre salaire brut ne bouge pas, c'est plutôt entre le salaire brut et la trentaine de lignes de prélèvements divers qui le séparent du salaire net qu'il faut chercher les explications à cette diminution.
Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qu'on va nous prélever en plus?
Alors, il y a d'abord l'augmentation des mutuelles entre 5 et 6%. Ça pourrait représenter une baisse nette de salaire de 6 à 10 euros par mois. Vous pouvez le vérifier. Hein, vous prenez en référence votre fiche de paye de décembre et vous allez à la ligne complémentaire santé obligatoire, colonne par cotisation salariée. Et puis, il y a ensuite l'abonnement à un service de transport dont une partie est remboursée par l'employeur. En de France, par exemple, le pass Navigo augmente de 2 euros, de 88,80 euros à 90,80 euros.
Et puis, il y a la question du prélèvement à la source.
Et oui, parce que sans aucune intervention de notre part, eh bien, l'administration fiscale réajuste automatiquement en début d'année le taux de prélèvement à la source en fonction des revenus qui ont été déclarés l'an dernier. Il faut savoir que la règle, c'est que vous avez environ 2/3 des foyers dont les revenus augmentent d'une année sur l'autre, 1/3 dont les revenus revenus baissent. Là, on a à peu près 30 millions de Français qui pourraient être concernés. Donc, il faut le rappeler, cette diminution de la fiche de paye, c'est bel et bien une augmentation des prélèvements, qui vont atteindre, hein, les prélèvements obligatoires en 2026.
Donc, ça va durer. C'est pas seulement sur la fiche de janvier. C'est à partir de janvier,
absolument. Prélèvement obligatoire.
Le nombre de politiques qui nous disent, nous, on va vraiment rapprocher le net du brut.
Ça
s'en éloigne.
Eh bien, on continue à s'en éloigner.
Merci, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint sur RMC à 8h30. Notez-le, l'invité du face-à-face, ce sera le député européen Place Publique, Raphaël Glucksmann. Est-ce qu'il sera candidat dans la primaire de la gauche qui a commencé à être évoquée ce week-end par Olivier Faure? Et puis, juste après cela, il y aura Nicolas Canteloup, comme chaque matin, qui vient avec ses imitations. Face à Canteloup, c'est tous les jours, 8h50 sur RMC. On se retrouve dans un instant, il est 8h10.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h13 et c'est tous les jours qu'il est avec nous, Arnaud Demange. Salut Arnaud.
Et qu'il rentre sur ce petit saxophone jovial. Bonjour les amis. Alors ce matin, je suis désolé, le monde va mal. Menace de guerre, vague de froid, crise politique et en plus on est tous malades. Et pour ne rien arranger, en plus, c'est le retour de la tectonique. Les dieux nous ont maudits, Apolline. Ça revient sur TikTok. Apo, est-ce que vous dansiez la tectonique il y a 20 ans?
Oh, j'ai dû tenter, quoi.
Ouais.
Danser, à mon avis, c'est un grand mot, mais enfin, tenter de le danser, ouais.
Vous étiez coiffé avec un palmier sur le côté.
Oh, j'ai fait.
Des fringues fluo trop petites. Ouais. Mathieu, vous l'aviez, le palmier sur le côté.
Les fringues ont toujours été trop petites.
Meilleur van ever.
Je vais m'en aller. Moi, je vais laisser finir la chronique. Je pense qu'il est meilleur que moi. Donc voilà, la tectonique qui avait quitté Paris il y a 20 ans et qui vient tout juste d'arriver à Mulhouse. Renaît aussi sur les réseaux. Finalement, vous voyez, l'invasion russe, on la souhaite pas, mais est-ce que ça aurait que des inconvénients? En tout cas, si c'est le cas, de toute façon, on aura notre président pour nous défendre avec ses lunettes de Tom Cruise. Qu'est-ce que ça lui a donné comme charisme, les Ray-Ban, là? C'est devenu Ray-Banuel Macron, maintenant. Le fabricant, il en vend plein des lunettes. C'est les lunettes de luxe Henri Julien, 650 balles la paire, et ça y est, Macron a enfin réussi à faire payer les riches pour quelque chose. Alors oui, c'est cher, mais en même temps, avec, vous faites tomber les plus puissants de la planète à Davos, donc voilà, 650 balles pour devenir maître du monde, c'est dingue. Je suis sûr que son œil est guéri, en vrai, hein. Ça fait une semaine qu'il est guéri, mais il garde les lunettes, il a compris que ça lui donnait du style, il est redevenu un peu populaire grâce à un orgelet. C'est comme quand on avait un plâtre quand on était au collège, on devenait tout de suite plus cool. D'ailleurs, c'est là-dessus que Gilbert Montagnier a fait carrière. C'est surtout parce qu'il est aveugle que c'est balèze, parce que sinon, c'est de la variétoche. C'est sympa, mais c'est classique. D'autres en ont fait. Philippe Croizon, avec des jambes et des bras, est moins épaté pendant la conférence sur la résilience. Un grand corps malade sans les béquilles, c'est juste un grand mou qui fait du slam.
Oh non.
Non, mais c'est les béquilles qui font tout. Les gens, ils vont pas pour le slam. Le slam, c'est du rap mou dans une forêt de béton. Je pense à mon frère en prison. Une larme coule, je suis peiné. Pourquoi est-il sans liberté? En plus, ils disent tous ça, ils pleurent si leur frère est en prison. Moi, si mon frère est en prison, je suis désolé, je pleure pas. Enfin, je suis contrarié à la limite.
Oui.
S'il est là-bas pour avoir tué quelqu'un, je suis plutôt content qu'il y soit. Ça me permet de plus partager ma chambre avec.
Oui, c'est sûr.
Bref, pour revenir au sujet, les lunettes lui donnent du charisme.
Le sujet des lunettes.
Je suis sûr qu'il était chez le tatoueur ce week-end.
Tu peux me faire un aigle sur le torse qui tient deux kalachnikovs en or sur un crâne avec des flammes. C'est pour le prochain G7. Je voudrais ouvrir ma chemise torse nu pendant un discours. Il va se faire mettre des grills. Ouais. Vous savez, les appareils dentaires des rappeurs, là, tout en diamant. Trump ne sait pas quelle bête il a réveillé.
La mort d'un Américain abattu par la police des frontières à Minneapolis relance les tensions aux États-Unis et notamment autour de ICE.
Oui.
Ice,
la police de l'immigration, c'est la pire création avec ce nom depuis Vanilla Ice. On est tous choqués parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des adultes américains abattus dans la rue. Enfin, d'habitude, ce sont des enfants
bien
dans
sûr.
Des écoles. Voilà, ça on sait. Mais donc on est choqués. Je sais, c'est noir comme humour, Apolline. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est voilà.
C'est ce qu'on a.
On fait avec ce qu'on a. Moi, j'ai un humour qui est tellement noir, lui aussi, pour être abattu par un agent de l'immigration américaine. Alors toujours à contre-courant, le JDD de Bolloré a publié ce dimanche un article sur les méchants antifas de la gauche qui empêchent la gentille brigade anti-immigration de faire son travail. Putain, le JDD en 43, ça aurait été quelque chose, hein.
De vils saboteurs ont empêché les convois allemands de traverser les beaux ponts qui font la fierté de notre pays en y déposant de l'explosif. Dans toutes les villes de France, des contestataires s'opposent au contrôle d'identité des ennemis de la nation par les forces du régime légitime de nos cousins d'outre-Rhin.
Ça aurait été magnifique.
Oh Dieu ! Sébastien Lecornu est toujours Premier ministre. Oui, c'est une information qu'on vous donne ce matin. Il devrait procéder bientôt à un remaniement gouvernemental à cause des municipales.
Oui, il l'est toujours parce qu'il y avait eu l'émotion de censure.
Oui, voilà. Tout ça. Donc, finalement, il est relâché.
Remaniement, Rachida Dati se lance à Paris, mais il n'y a pas qu'elle. Marina Ferrari se lance à Aix-les-Bains. Et Michel Fournier pourrait aussi quitter le gouvernement pour reprendre sa carrière de tueur en série.
Non,
je déconne. C'est pour se présenter à la mairie des Voivres dans les Vosges.
C'est chaud.
Non, mais quand tu préfères aller vivre au Voivre dans les Vosges plutôt que de faire partie du gouvernement, c'est vraiment que c'est un job pourri, en fait. Après, peut-être que les Voivres, c'est génial. On sait pas. Allez-y en vacances.
Oui.
Un paysage envoûtant. Un climat tellement vosgien. Une température de 7 degrés toute l'année. Quand nulle part est votre destination, découvrez les Voivres. Là où un instant dure toute la vie. Là où deux jours chez nous vous donneront l'impression d'y être depuis 6 mois. Fuyez le bling-bling de la Meurthe-et-Moselle. Et découvrez plus de 1000 nuances de bouse de vache. Relaxez-vous dans la chambre d'amis de la ferme à Gérard, située à côté du bistrot à Robert. Les Voivres. Venez vous vider la tête et repartez avec encore moins de souvenirs qu'en arrivant. Et retrouvez le plaisir de rentrer chez vous quand c'est fini. Vous voyez, ça a l'air super.
Moi, j'y vais. Hein.
La matinale là-bas.
On déloque. Allez, on déloque.
C'était l'Arnaud de Manche, mesdames, messieurs. Tous les jours en direct à 7h20, à 8h20, à tout moment également en podcast. Au 32-16, vous êtes nombreux à réagir ce matin à la prise de parole ce matin de la sœur de Samuel Paty, Mickaël Paty, qui était avec nous à 7h40. Et vous vouliez réagir, bonjour, vous ne souhaitez pas qu'on dise votre nom, vous êtes enseignant dans le Nord, je vous accueille pour que vous nous racontiez aussi ce à quoi vous êtes confronté au quotidien.
Oui, bonjour Apolline, tout d'abord l'émotion me gagne non pas parce que je passe pour la première fois à la radio, mais parce que je vais évoquer un monsieur, ouais. Monsieur Paty, d'ailleurs je considère que Samuel appartient à sa famille et qu'on devrait tout simplement l'appeler Monsieur Paty. Je trouve totalement aberrant que ce soit la famille qui fasse les démarches pour la comptabilisation de ce monsieur. Ça me perturbe. Et puis pour mon cas personnel, ce sont des épiphénomènes qui cumulés montrent que effectivement il y a une certaine dérive. De mon point de vue personnel, j'ai eu un moment de ma carrière où j'enseignais en maternelle, ouais. Et quand j'ai lu et monté un projet sur l'histoire des trois petits cochons, j'ai eu un tiers de la classe d'enfants qui pleurait. Et donc, on m'a fortement conseillé, du point de vue des parents, de...
Il pleurait à cause du loup ou il pleurait à cause des cochons ?
À cause du cochon.
Parce qu'on ne peut pas parler des cochons.
Tout à fait. Alors, je ne veux absolument pas stigmatiser une religion, je la respecte totalement. Moi, je fais juste un relais de terrain de ce que je constate depuis 22 ans, parce que j'exerce depuis 22 ans.
Ouais.
Et puis, un autre épiphénomène que là, je ne comprends toujours pas, c'est que j'ai souvent, donc je travaille souvent, quasiment tout le temps en REP+, c'est-à-dire en réseau d'éducation prioritaire.
Oui.
Et très souvent, à chaque année, en photo de classe, j'ai au moins 4-5 élèves où les parents refusent que l'enfant apparaisse sur la photo de classe pour des raisons religieuses.
Ah, alors moi, parce qu'on ne doit pas faire de représentation.
Voilà, moi je suis très curieux, j'essaie de comprendre. Donc tous les matins, je prends un café dans un bistrot très populaire où il y a une population musulmane et des anciens. Donc j'explique, j'essaie de comprendre. Et en fait, ils m'expliquent que c'est cette nouvelle génération qui pervertit ce texte sacré.
Et que ça, c'est ce que vous dites, les plus anciens.
Mais bien sûr, à aucun moment, un verset n'explique que l'enfant ne peut pas être en photo. Et vous voyez, cette démarche qui... et encore une fois, je n'ai rien contre l'islam, absolument rien.
Qu'est-ce que vous dit la hiérarchie, par exemple, quand vous parlez des trois petits cochons,
Je ne l'évoque pas. Comme je disais au standard, l'armée est la grande muette, l'éducation nationale, c'est pas mal non plus.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de témoigner ce matin, donc de votre quotidien aussi de prof. Je précise que vous ne souhaitez pas qu'on donne votre prénom. On pourra simplement préciser que vous êtes professeur dans le Nord. Il est 8h22 dans un instant. La politique, mon invité, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, député européen. Mais est-ce qu'il est aussi candidat, puisque ça y est, c'est lancé, la primaire de la gauche, ce sera le 11 octobre prochain. Est-ce qu'il est inscrit? Est-ce qu'il a pris son ticket? Je lui pose la question dans un instant, Raphaël Glucksmann.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Raphaël Glucksmann.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin. Vous êtes député européen place publique. De très nombreuses questions à vous poser sur la manière d'ailleurs dont vous qualifiez la période que l'on traverse, le chaos du monde. Mais d'abord pour savoir au fond qui est devant moi, cette question bien sûr, vous l'avez entendu, vu, je ne sais même pas si vous étiez au courant d'ailleurs, la primaire de la gauche, tout a l'air sur des rails, on a même la date, ce sera le 11 octobre 2026. Est-ce que vous en serez?
Non. Je n'en serai pas, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit la manière d'enclencher une dynamique pour les élections qui seront vitales de 2027. Et donc non, je n'y serai pas. Et je l'ai dit depuis le début, je ne changerai pas d'avis dessus. Vous savez, cette primaire, c'est en quelque sorte une volonté de ne pas choisir. De ne pas choisir entre les deux pôles qui existent à gauche et qui sont structurés et qui sont les deux identités politiques puissantes. D'un côté, vous avez Jean-Luc Mélenchon, le populisme, la brutalisation du débat public, le refus de l'Union européenne. Et de l'autre, vous avez une gauche social-démocrate qui assume de vouloir gouverner le pays, qui est viscéralement pro-européenne. Et c'est l'affirmation de ces deux pôles qui permettront d'enclencher des dynamiques au moment des élections, pas cette primaire qui refuse de choisir.
Mais je comprends pas, parce que quand on écoute Olivier Faure, il a l'air de dire qu'en effet, il n'est pas question d'inviter Jean-Luc Mélenchon. Mais vous avez l'impression que c'est vicié.
Mais la moitié des gens qui participent à cette primaire sont pour des accords avec Jean-Luc Mélenchon.
C'est le cas notamment d'Europe Écologie Les Verts.
Mais oui, vous avez par exemple hier, vous aviez une législative partielle dans la troisième circonscription de Haute-Savoie. Vous aviez un candidat place publique allié au Parti Socialiste. Et qu'est-ce qu'ont fait les Verts? Ils ont choisi le candidat LFI qui fait 6% et qui nous empêche d'aller au deuxième tour. Donc en fait, il y a ce refus du choix. Mmh. Et moi, je ne participerai pas à cette primaire qui ensuite débouchera sur une candidature qui sera le plus petit dénominateur commun entre eux tous. Et qui finira dans une compétition plus à gauche que moi tu meurs, et finalement pour aller aux législatives après cette banane et aux présidentielles, faire des deals avec Jean-Luc Mélenchon. Moi je veux un autre chemin, une autre voie, et je m'appuie sur quoi? Sur ce que nous avons fait aux élections
c'était
européennes.
C'était une mascarade en fait, si je vous écoute, ce qui s'est passé en fait ça ne compte pas quoi.
Bah, je pense qu'à un moment il faudra qu'ils choisissent, c'est tout. Et je m'appuie sur cela, sur ce que nous avons fait aux élections européennes. Depuis plus de 10 ans, la gauche social-démocrate n'avait pas fait 10% à une élection. C'était 6, 2, enfin tout ce que vous voulez. Là, on a fait 14%. Pourquoi? Parce qu'on a assumé une ligne claire, un cap clair, qu'on a été cohérent, qu'on a assumé la confrontation avec Mélenchon, qu'on a assumé notre identité politique. Et c'est sur ce socle-là qu'il faut bâtir.
Mais sur quoi vous fonderez votre légitimité si c'était vous qui incarniez du coup cette gauche? Comment il faudra bien un moment ou un autre que vous disiez « c'est moi ».
Non mais ce que je propose moi au Parti Socialiste, puisque ce sont nos partenaires et c'est la force principale de gauche anti-Mélenchon, eh bien ce que je propose c'est que nous créions ensemble une plateforme qui commence par quoi? Par se mettre d'accord sur le fond, pour savoir quel type de campagne nous allons mener et de quelle manière, dans quel but nous allons gouverner ce pays. Parce que l'ambition, c'est de gagner les élections. Ce n'est pas de se placer à gauche pour récupérer ensuite les ruines qui seront héritées de 2027. C'est de gagner.
Mais ça veut dire que si
fois-ci.
Le Parti Socialiste, finalement, derrière Olivier Faure, alors on n'a pas très bien compris d'ailleurs, mais enfin, c'est pas le propos ce matin, mais Olivier Faure, effectivement, était sur la photo de ce lancement, donc, de cette primaire, mais officiellement, il ne le faisait pas pour le Parti Socialiste, ou en tout cas, sans mandat du Parti Socialiste. Mais bref, imaginons que le Parti Socialiste vraiment accepte le principe de cette primaire, ce sera dans ces cas-là sans vous.
Mais
ça rompra votre pacte
de
avec...
De toute façon sans moi. Mais moi, ce que je propose à mes partenaires socialistes, c'est de faire une plateforme commune qui permette ensuite d'enclencher une dynamique électorale. Ce que je veux, c'est que nous soyons fiers de ce que nous sommes. Et sur les retraites, à 60 ans ou pas, sur la construction d'une Europe puissante, sur la défense européenne, sur tout un tas de sujets, sur l'énergie, Nous ne sommes pas d'accord entre nous avec les gens qui participent à cette primaire. Donc, si l'idée, c'est de faire une synthèse, une sorte de gloubi-boulga qui met la poussière sous le tapis, ça ne fonctionnera pas. La seule manière d'enclencher... En plus, il y a vraiment des, y a des leçons. Enfin, je veux dire, on a vécu 2017 et 2022. Notre espace politique s'est fait ratiboiser. Ratiboiser par Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'il assume, lui, ce qu'il est. Il assume de cliver, il assume de trancher les questions. Et donc, à la fin, il produit une vision cohérente. Eh bien, ce n'est pas la nôtre. Et donc, nous, on doit produire une vision cohérente nous-mêmes, assumer de trancher, assumer de cliver et assumer jusqu'au bout ce que nous sommes.
En tout cas, les choses sont très très claires là et vous sillonnez la France, vous étiez dans les Deux-Sèvres cette semaine, en Haute-Savoie la semaine d'avant, vous serez à Grande-Synthe cette semaine. Vous êtes clairement dans ce moment de campagne pour préparer cette plateforme.
Et pour construire un projet, exactement. Dans les Deux-Sèvres, j'étais avec des enseignantes et des enseignants. Vous savez que la France est aujourd'hui le pays qui paye le plus mal en Europe en rapport avec son PIB, qui paye le plus mal ses professeurs. La France a été construite par l'école. C'était les hussards noirs de la République qui ont fait la République. Et aujourd'hui, nous laissons l'école péricliter. L'éducation sera au cœur du projet que nous proposons pour la France. C'est le cœur du métier à tisser qui fabrique des Français, en fait.
Je vous interrogerai.
Et de la même manière, à Grande-Synthe, de quoi nous allons parler ? D'industrie. Comment on peut imaginer être une grande nation, une nation souveraine, quand on a laissé la désindustrialisation se produire, quand on a laissé délocaliser nos systèmes de production ? Et aujourd'hui, nos industriels sont paniqués parce qu'il y a un mur qui arrive, un tsunami chinois qui arrive sur nos productions, et si nous ne faisons rien, nous ne produirons plus
Glucksmann,
d'automobiles, nous ne produirons plus d'acier.
Est-ce que là-dessus, aujourd'hui, avant de vous interroger sur Donald Trump, sur tout ça, sur l'Europe, vous dites, et vous l'avez dit dès le début, c'est vraiment notre cœur, c'est aussi de croire à cette Europe. Mais est-ce que cette Europe, aujourd'hui, n'est pas notre boulet sur les questions industrielles, par exemple? Vous parlez de ce tsunami chinois, ici même à ce micro, le patron de la BPI dit disait il y a trois jours, il faut que l'Europe érige à nouveau
des barrières
le temps de se réarmer. Et il disait, mais le problème, c'est que l'Europe va trop lentement.
L'Europe va trop lentement, mais c'est seulement à l'échelle européenne que nous pourrons imposer ces barrières. Vous savez, moi je suis rapporteur pour le Parlement européen sur les questions des investissements étrangers. Ce que font les Chinois aujourd'hui, et c'est une stratégie consciente pour ratiboiser nos productions et nous rendre totalement dépendants, c'est qu'ils investissent dans des productions en Europe qui sont en fait juste des usines d'assemblage pour pouvoir détruire par exemple Renault en France. Et ce qu'il faut faire, c'est accepter
aujourd'hui dans cette menace-là, menace de disparition de notre industrie qui est déjà plus très flambante.
Mais vous savez, ça, c'est arrivé, par exemple, dans le secteur de production des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Eh bien, on a laissé nos producteurs se faire ratiboiser. Aujourd'hui, les 10 champions du monde sont tous chinois.
Et quand vous dites, vous dites, on a laissé.
Oui,
est-ce qu'on ne s'est pas tiré une balle dans le pied?
Mais oui, et c'est pour ça qu'il faut changer les politiques commerciales européennes. C'est pour ça que je me bats au Parlement. C'est pour ça que j'ai convaincu les sociaux-démocrates, la deuxième force du Parlement européen, d'avoir un agenda de souveraineté qui est centré sur la question de l'industrie, de souveraineté industrielle, pour protéger nos secteurs, protéger nos producteurs contre la menace chinoise, qui est vraiment une menace d'éradication de nos capacités de production. Et moi, ce que je vous dis, c'est très simple. En fait, il faut accepter de mettre des droits de douane, d'activer nos instruments de défense commerciale que nous avons élaborés, et ça ne peut se faire qu'à l'échelle...
Le fameux bazooka, qui était plutôt une réponse aussi à la menace de droits de douane très élevée de Donald Trump. Bon, depuis, il est revenu dessus, mais est-ce qu'il faut effectivement pas seulement dire « Ah, attention, on va l'activer », est-ce qu'il faut le faire ?
Il faut le faire.
Faut le faire avec les Chinois ?
Et ce qu'il faut faire, surtout, c'est de dire dans telle filière qui sont stratégiques pour nous, eh bien, nous n'acceptons plus les produits chinois.
Oui,
nous les bloquons
le
à la frontière. Eh bien, nous commençons aujourd'hui, par exemple, sur la question des voitures électriques. Et l'Europe, certes, va trop lentement, mais la seule manière de protéger nos industries, c'est que l'échelle européenne fonctionne. La France seule ne pourra pas assumer un rapport de force ni avec la Chine, ni avec les États-Unis de Donald Trump. Donc, tous ceux qui vous expliquent qu'en gros, il faut sortir de l'Union européenne ou au moins diminuer le pouvoir européen, eh bien, en fait, jouent contre nos industries. Nous, au Parlement européen, nous poussons pour un agenda de souveraineté. Et moi, ce que je note, c'est que les pseudo-patriotes, ceux qui vous
expliquent... Finalement, la souveraineté, c'est plus du tout un gros mot, quoi.
Et non, mais la souveraineté, c'est le cœur de tout. C'est le cœur de la liberté. Moi, j'ai été élu en 2024 aux européennes sur un agenda de souveraineté en expliquant que tout aujourd'hui, toutes nos politiques publiques doivent viser à une seule chose, nous rendre libres en matière de défense pour ne plus dépendre simplement des États-Unis d'Amérique et du bon vouloir du président des États-Unis. En matière industrielle, pour ne pas être dépendant de la Chine dans toutes les filières stratégiques. En matière d'énergie, pour ne plus dépendre de la Russie, pour ne plus dépendre des puissances du Golfe ou des États-Unis. Et donc, tout doit viser à la souveraineté désormais, parce que l'Europe, à cause de 40 années d'indolence en France et en Europe, eh bien, nous sommes devenus profondément dépendants. Vous savez que, par exemple, quand vous utilisez votre carte bleue, eh bien, vous dépendez des États-Unis. Et que si le président des Américains décide
ce qu'il a fait pour un juge.
Juge Guillou.
Voilà, qui se retrouve à devoir payer en espèces et à ne plus même pouvoir payer qu'une carte bleue.
Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire, là? Il faut un système européen de paiement. C'est pour ça que moi, je salue le travail d'Aurore Laluc, la coprésidente de Place Publique, qui est à la tête de la Commission économique au Parlement européen, se bat pour l'euro digital, pour qu'on puisse payer en utilisant des moyens européens.
Raphaël
et c'est
Glitzman.
Ça sur tous les sujets. Le numérique.
Donc, on doit reprendre le pouvoir de notre
reprendre
propre souveraineté.
Et ça ne peut arriver qu'à l'échelle européenne.
Tout cela face, effectivement, à des États-Unis de plus en plus hiératiques. Ce week-end, ce drame à nouveau à Minneapolis. Est-ce que les États-Unis ont basculé?
Ils ont basculé et c'est vraiment, vraiment une leçon qu'on doit retenir. Vous avez vu à quelle rapidité une démocratie aussi enracinée que la démocratie américaine peut basculer. Vous avez aujourd'hui des citoyens américains qui sont assassinés par des agents fédéraux dans les rues de Minneapolis, un an seulement après l'accession au pouvoir de Donald Trump. Vous avez aujourd'hui des États-Unis d'Amérique qui menacent de guerre le Danemark, leur meilleur allié sur la scène internationale, pour récupérer le Groenland. Donc vous avez vu à quel point une société démocratique peut basculer. Et c'est une leçon qu'on doit tirer, y compris en France. Quand vous votez pour l'extrême droite, c'est ça que vous avez au pouvoir. Ce n'est pas...
Ce que vous dites, c'est que, attention, ce qui se passe là-bas, ce sont les complices de Donald Trump ici, c'est le RN.
Mais oui, quand vous votez RN, si le RN l'emporte... Et en 2027, il y a un fort risque que le RN l'emporte cette fois-ci. Eh bien, c'est ce que vous avez. C'est ce que vous avez en Hongrie, sous Monsieur Orban. Le népotisme, la violence, la destruction des institutions démocratiques, la destruction de l'audiovisuel public, c'est ce que vous avez aux États-Unis. Parce qu'on pourrait me dire, oui, mais la Hongrie n'était pas une démocratie très enracinée. OK. Et aux États-Unis, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aujourd'hui, il faut avoir conscience que quand on choisit de porter l'extrême droite au pouvoir, ce qu'on a, c'est le spectacle de Minneapolis, ce sont les embardés de Trump à l'international.
Ça veut dire que pour vous, Donald Trump n'est plus un allié, vous l'avez d'ailleurs dit. Dans le même temps, lorsque l'on voit les drames que traverse l'Iran aujourd'hui, est-ce qu'il faut en même temps se dire malgré tout, bon, il faut quand même espérer que Donald Trump intervienne,
ben,
ou Jay, pas
il faut,
que, comment on fait?
Il faut déjà que l'Europe agisse. Aujourd'hui, on n'a que des tweets venant d'Europe. Vous savez, depuis 2 ans, et je suis l'architecte de cela, donc je sais. Depuis 2 ans, au Parlement européen, nous demandons que le corps des gardiens de la Révolution, c'est-à-dire le pilier de la répression qui a fait des dizaines de milliers de morts au moment où on se parle en Iran, que le corps des gardiens de la Révolution qui soutient le terrorisme dans l'ensemble de la région, et y compris sur le sol européen, avec notamment l'attentat contre la synagogue de Bochum en 2022, eh bien que le corps des gardiens de la Révolution soit inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Et ce n'est toujours pas fait. Au moment où on se parle, il y a encore des États, dont malheureusement le nôtre, la France, qui refusent cette inscription.
Pourquoi?
Sur la liste des organisations terroristes. Parce qu'ils veulent continuer à pouvoir parler avec ce régime. Mais la vérité, c'est que ce régime est devenu totalement infréquentable, qu'il est dangereux pour le peuple iranien d'abord, qu'il est dangereux ensuite pour l'ensemble de la région, et qu'il est dangereux pour nous, puisqu'il est essentiel dans l'effort de guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine, qui est un effort de guerre contre l'Europe. Donc en fait, à un moment, il faut que l'Europe arrête de simplement être une commentatrice des événements mondiaux et agisse.
Et agisse sur le Groenland. Est-ce que vous faites confiance à Donald Trump, qui semble en quelque sorte faire machine arrière?
Ce que cela montre, le fait que Donald Trump fasse machine arrière, c'est qu'en fait, tant que vous faites des courbettes, il avance, il vous marche dessus. Mais si vous assumez le rapport de force comme l'ont fait les dirigeants européens, et là je salue la position du président de la République française, Emmanuel Macron, eh bien, il recule quand vous assumez le rapport de force. Il a reculé face aux Chinois, il a reculé là face aux Européens. Et c'est précisément parce que les Européens n'ont pas baissé les yeux, parce qu'il y a eu une réponse collective européenne, parce qu'il y a eu la menace de l'activation de l'instrument anti-coercition qui est notre bazooka commercial et qui aurait fait extrêmement mal à l'économie américaine. C'est pour cela qu'il a reculé.
Et mais donc on peut y arriver.
Au premier signe de faiblesse, il avancera. Mais par contre, le message que je voudrais donner aujourd'hui, c'est que en fait, en Europe, on passe son temps à déplorer notre propre faiblesse. Mais fondamentalement, nous ne sommes pas faibles. Nous pouvons être forts. Nous sommes le premier marché du monde. Les Américains dépendent de notre marché, y compris les grandes plateformes américaines. Et donc, si nous avons la volonté d'affirmer notre puissance, eh bien, nous serons puissants et nous pourrons faire reculer les prédateurs. Et les prédateurs, ce sont les États-Unis de Trump, c'est la Chine de Xi Jinping et c'est la Russie de Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas condamnés à l'impuissance.
Raphaël Glucksmann, ce matin, j'ai reçu sur RMC la sœur de Samuel Paty. C'est aujourd'hui l'ouverture du procès en appel. Et ça a donné lieu à un certain nombre de témoignages d'auditeurs, professeurs. Et notamment, je voudrais que vous écoutiez celui-ci. Il ne souhaite pas qu'on dise son nom. Il est professeur dans le Nord depuis 22 ans, dans des quartiers prioritaires. Écoutez ce qu'il dit.
Pour mon cas personnel, ce sont des épiphénomènes qui, cumulés, montrent que effectivement, il y a une certaine dérive. Dans mon point de vue personnel, j'ai eu un moment de ma carrière où j'enseignais en maternelle. Ouais. Et quand j'ai lu et monté un projet sur l'histoire des trois petits cochons, j'ai eu un tiers de la classe d'enfants qui pleurait. Et donc, on m'a fortement conseillé, du point de vue des parents, de...
Il pleurait à cause du loup ou il pleurait à cause des cochons? Pardon, je suis...
À cause du cochon.
Parce qu'on ne peut pas parler des cochons.
Tout à fait. Et puis, un autre épiphénomène hein, que là, je ne comprends toujours pas, c'est que j'ai souvent... donc, je travaille souvent, quasiment tout le temps en REP+, c'est-à-dire en région d'éducation prioritaire.
Oui.
Et très souvent, à chaque année, en photo de classe, j'ai au moins 4-5 élèves où les parents refusent que l'enfant apparaisse sur la photo de classe pour des raisons religieuses.
Qu'est-ce que vous dit la hiérarchie, par exemple, quand vous faites, quand vous parlez des trois petits cochons?
Je n'évoque pas.
Vous ne parlez pas.
L'armée, la grande muette, l'éducation nationale, c'est pas mal non plus.
Qu'est-ce qu'on dit de ce témoignage? Qu'est-ce qu'on en pense aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vous dites, effectivement, 5 ans après la mort de Samuel Paty?
Qu'il faut se montrer inflexible. Inflexible. L'école doit être protégée, nos enseignants doivent être protégés et appuyés. Je veux dire, on va continuer à enseigner les trois petits cochons, la Shoah, on va continuer à enseigner la science, on ne reculera pas. Nous sommes...
Ce même professeur disait aussi qu'il ne pouvait plus parler de la préhistoire et du darwinisme.
Eh bien nous allons faire en sorte de réarmer nos professeurs, de les soutenir, de faire de l'école à nouveau une avant-garde du projet républicain. Mais vous savez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait peser sur l'école l'ensemble des crises de la société. Et quand on parle de l'école de la Troisième République et des hussards noirs, mais c'était un moment où il y avait aussi des syndicats de masse, des partis politiques de masse, un service militaire de 3 ans. Et donc, il y avait toute une société qui accompagnait le projet républicain. Et aujourd'hui, il n'y a plus que l'école. Il n'y a plus que l'école, TikTok et des émissions de divertissement. Eh bien, moi, je vous le dis, on va reprendre le messier à tisser de la France et de la République. Et donc, par exemple, il faut un service civique universel et obligatoire.
Universel et obligatoire, pas volontaire.
Non,
pas...
pour tous les jeunes de France, pour les arracher à leur quartier, pour qu'ils puissent se mixer, pour qu'ils puissent se rencontrer.
L'interdiction des réseaux sociaux, au moins de 15 ans, vous y êtes favorable?
Oui, mais moi, je vais même plus loin. Je pense qu'il y a des plateformes aujourd'hui qui sont une menace de déstabilisation pour nos démocraties. J'ai présidé la commission d'enquête du Parlement européen sur les ingérences étrangères et je peux vous dire que par exemple TikTok...
Faut interdire TikTok.
Quand vous prenez TikTok et que vous analysez leur rôle, par exemple, dans l'élection présidentielle en Roumanie, ils ont faussé cette élection. Ils ont fait monter un candidat de 3 à 25% simplement en le rendant viral. Nous n'avons aucun contrôle sur ces algorithmes. Ils sont aujourd'hui une menace pour la démocratie. Donc oui, il faut menacer de bannir TikTok et ensuite prendre le contrôle, pouvoir surveiller ces algorithmes. Aujourd'hui, c'est à la fois une menace pour la santé mentale de nos enfants. C'est une sorte de fentanyl, une drogue qui est en train de vraiment pourrir l'esprit de nos mômes, et c'est une menace pour nos démocraties.
Et je précise d'ailleurs, Raphaël Glucksmann, que c'est assez cohérent. Vous avez vous-même fermé votre compte TikTok. Député européen, place publique, merci d'avoir répondu à
merci
mes questions
à
ce matin. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50.
face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Raphaël Glucksmann, candidat place publique, était mon invité ce matin et il est resté avec nous. Rebonjour Raphaël Glucksmann.
Rebonjour, quel plaisir d'être là.
Alors, bah, vous allez pas le regretter parce que Ségolène Royal, figurez-vous, oui, arrive. Elle voulait absolument vous dire un mot.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Oui.
Bonjour Raphaël. Oui, j'ai trouvé votre interview formidable sur Apolline. Oui. Non, franchement, ce serait un bonheur qu'il soit élu en 2027. Non seulement nous aurions un président de gauche, mais en plus, contrairement au dernier président de gauche, vous le voyez par vous-même, Apolline, on aurait un Raphaël qui a la classe, une classe naturelle. En plus, beau gosse, hein, ce qui ne cache rien. Mais bien sûr, il ne pourra pas embrasser cette fonction suprême sans une première dame qui soit à la hauteur.
Vous l'avez compris. Ah oui. C'est une proposition, peut-être.
Bah oui, qui connaissent parfaitement les rouages du pouvoir. Et puis quand on voit comment ça évolue au Groenland, je pense même qu'il serait opportun, le mot est juste, opportun, d'avoir une première dame qui était ambassadrice des pôles. Il n'y en a pas 36,
mais Madame Royal, Raphaël Glucksmann est en couple.
Oui, bien sûr, mais bon, c'est pas ça qui va arrêter un président de gauche. Un vrai président qui se dit de gauche, ça doit savoir tromper sa femme, pardon.
Voilà, vous pensez à quelqu'un?
Oui, non,
oui, mon petit. Voilà.
Mais il n'y a pas que lui, vous savez, Mitterrand, regardez. Il a même poussé le bouchon très loin, il avait même une fille cachée. Bon, on n'en est pas là, en tout cas, voilà. Que Raphaël sache que j'ai un scooter.
Ah oui.
Je connais des bonnes boulangeries. Je suis matinal. Si vous aimez les croissants, j'ai un peu de temps, je peux livrer.
Merci beaucoup, Madame Royal. Sinon, la gauche unie a annoncé donc que la primaire pour désigner son candidat à la présidentielle aura lieu le 11 octobre prochain.
Oui. Enfin, aujourd'hui, le problème de la gauche, c'est pas de trouver des candidats, c'est plutôt de trouver des électeurs.
Oui. François Ruffin est également avec nous. Il voulait nous dire un mot.
Je voulais dire stop. Stop, ça suffit, Raphaël. Si chacun se présente de son côté, comment nous allons faire pour être unis? Oui, Raphaël a fait 14% aux dernières européennes, mais avec cette multiplication de candidats à la présidentielle, tu vas faire 5 fois moins, Raphaël. Alors, je le dis, si tu fais 3%, si on additionne, en revanche, nos voix. Mais 1%. Les 1% des écologistes, plus les 12 000 voix de Clémentine Autain, les 853 voix du Parti Animaliste, plus les voix de la belle famille d'Alexis Corbière. On peut viser haut la main les 5,37%. Alors je dis stop, ça suffit. Rejoins-nous, Raphaël.
Merci beaucoup, François Ruffin. Raphaël Glucksmann est donc toujours avec nous. Et monsieur Glucksmann, au Parlement européen, vous aviez voté pour que l'accord de libre-échange avec le Mercosur soit suspendu. Pourquoi ?
Ah, chère Apolline de Malherbe, les pays du Mercosur, il faut le savoir, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires qui pèsent sur nos agriculteurs européens. Moi, je les défends dans notre belle maison qu'est le Parlement européen. Et ça, c'est pas normal. Apo pour canard. Non, Apolline de Malherbe. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Argentine, le Brésil veulent exporter chez nous des tonnes de steaks qui ne sont même pas en soja? Ni en toffee, ni en petite épeautre labellisée Moulin de Paris. Alors, je ne vous parle même pas des millions de bouteilles de vin non bio qui vont envahir les rayons de nos épiceries équitables.
Ah oui, c'est
moi, attends, j'accorde. Moi, je soutiens les agriculteurs. Arrêtez, ce n'est pas drôle. Je suis né avec ça, c'est déjà dur.
Là, il se demande s'il doit rester là, Raphaël Glucksmann.
Il y a tout RMC qui m'a dit, mais non, t'inquiète, c'est facile, c'est safe. Eh ben, bravo.
Moi, je soutiens. Rien ne m'arrêtera, Pauline Malherbe. Ni lui, ni personne. personne. Il n'y a pas de censure. Les agriculteurs français font un métier difficile, dur. Je le vois chaque jour. Mon voisin fait pousser du basilic dans une jardinière sous le balcon de notre immeuble du 9e. C'est compliqué. Je le vois en bas de chez nous. Il y a un peu de...
10e, pardon. C'est encore plus bobo.
Ouais.
Cibler, là.
Oui, mais tu ne sais pas que tu vas déménager.
Ah, pardon.
En bas de chez nous, dans le 10e, 9e. Oui, parce que je multiplie les propriétés immobilières. Ah, oui. Il y a un petit potager. Putain, je vais pas la finir, ma chronique. Il y a un petit potager citoyen.
Il n'emploie pas ce mot.
Oui, pardon.
J'ai des enfants. Non, punaise, bien les élever, moi.
Pardon, punaise. Oui, non, mais quand je suis excédé, des fois, en bas de chez nous. Entre la rue La Fayette et le boulevard Magenta, et bien que d'efforts pour arriver à faire pousser trois tomates cerises et filer cette chronique.
C'est un peu poussif, là.
Je ne veux
pas juger le travail des journalistes.
Vous allez y arriver. Merci, monsieur Glucksmann. Ce matin,
il y avait encore un paragraphe. Je crois que je suis censuré.
Faudrait qu'on accueille Philippe de Villiers.
Que de folie dans ce studio.
Le puits du fou de gauche, alors.
Non, mais on ne touche pas au puits du fou. Monsieur Ruffin doit se calmer. L'histoire de France est trop importante pour la confier à monsieur Ruffin et à ses régicides en Sarouel bioéquitable. Non, ça va être quoi, les attractions monsieur Ruffin dans son puits du foot gauche. Hein, ça va être les visiteurs pratiqueront le tir au patron, c'est ça, avant d'aller faire un tour sur les montagnes soviétiques. Oui. Et puis les enfants joueront à la pêche avant d'aller se bousculer dans les ladas tamponneuses et nos spectacles. Oui. On va oublier les grands classiques pour remplacer ça par le bourgeois pas du tout gentilhomme bâtard, c'est ça, et avec des tableaux d'aventure comme Trotsky et Hutch.
Voilà.
Et tout ce beau monde mangera chez qui? Chez Marx Donald, hein? Je vois ça. Non, mais quelle vision d'horreur. Non, prions Saint-Vincent de Paul Auré et la Vierge Marine pour nous épargner de ce fléau. Merci à mon binôme.
Merci. Merci à Raphaël Glucksmann d'avoir joué le jeu et d'être resté avec nous. Face à Canteloup tous les jours, 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Quel est le programme, Alain?
On a une question simple. Mélenchon ou Glucksmann, qui peut faire gagner la gauche en 2027, puisque ni l'un ni l'autre n'iront à la primaire? Et puis, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice qui veut stopper l'immigration pendant 3 ans. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Venez en discuter avec nous au 3216.